hors de l'Oronte en Syrie. Combattant, chasseur et homme de lettres, témoin et acteur au cours de sa très longue vie qui coïncide presque entièrement avec notre XIIe siècle, des croisades et de l'établissement des royaumes francs au Levant. J'imagine ce prince amoureux des lances et des faucons, des arcs et des chevaux, des poèmes et des chanteurs face aux lourdes armes franques, à la violente sobriété de ses ennemis venus de si loin qu'il fallut bien du temps et des batailles pour les domestiquer, pour poncer un peu la couche de barbarie sur leurs armures. Les Francs finirent par apprendre l'arabe, par goûter les abricots et le jasmin, et par nourrir un certain respect envers ces contrées qu'ils venaient délivrer des infidèles. Le prince de Shaizar, après une vie de bataille et de chasse au lion, connut l'exil. C'est dans cet exil, dans la forteresse de Hosn Kaifa, au bord du Tigre, loin des combats, âgé de près de 80 ans, qu'il composa des traités aussi divers et magnifiques qu'un éloge des femmes, une épître des bâtons, consacrée aux bâtons miraculeux, depuis le bâton de Moïse jusqu'à la canne que le prince Oussama utilisait lui-même dans ses vieux jours et qui prend, dit-il, en pliant sous son poids, la forme de l'arc puissant de sa jeunesse farouche. Un traité du sommeil et des songes. Et cette autobiographie extraordinaire, le livre de l'instruction par l'exemple, qui est à la fois un manuel d'histoire, un traité de cinégétique et un bréviaire de littérature. Oussama ibn Munqriz trouva aussi le temps de rassembler son œuvre poétique, dont l'ensemble Al-Kindi mit des extraits en musique. Aujourd'hui, le caravansérail de Jalaleddin Vaes à Alep a brûlé, et lui-même est mort. Mort peut-être de voir ce qu'il avait construit, un monde d'extase partagée, de possibilités de passage, de participation à l'altérité, jeté aux flammes de la guerre. Il a rejoint Oussama sur les rives d'un autre fleuve, le grand combattant qui disait de la guerre. La valeur est certes une épée plus solide que toutes les armures, mais elle ne protège pas plus le lion de la flèche qu'elle ne console le vaincu de la honte et de la ruine. Je me demande ce que penserait Oussama ibn Munqriz le brave de ces images hilarantes de combattants du djihad d'aujourd'hui, photographiés en train de brûler des instruments de musique, car non islamiques. Des instruments provenant sans doute d'anciennes fanfares militaires libyennes, des tambours et des trompettes arrosés d'essence et enflammés devant une troupe respectueuse de barbus, aussi contents que s'ils brûlaient Satan soi-même. Les mêmes tambours et trompettes, à peu de choses près, que les Francs ont copiés à la musique militaire ottomane des siècles plus tôt, les mêmes tambours et trompettes que les Européens décrivaient avec terreur, car ils signifiaient l'approche des janissaires turcs invincibles, accompagnés des mertères. Et aucune image ne représente mieux la terrifiante bataille que les djihadistes livrent en réalité contre l'histoire de l'islam que ces pauvres types en treillis, dans leur bout de désert, en train de s'acharner sur de tristes instruments martiaux dont ils ignorent la provenance. Il n'y avait pas un seul guerrier médiéval, ni égorgeur déguenillé sur la jolie piste asphaltée entre Palmyre et Rasafé, juste une guérite, plantée au bord de la route désolée ou somnolée, à l'ombre d'une pauvre tôle, des appelés syriens dans leur uniforme d'hiver marron foncé malgré la chaleur, préposés à l'ouverture d'une chaîne qui barrait le passage et que Bilger n'a vu qu'au dernier moment, obligés de freiner à mort à en faire hurler les pneus du 4x4 sur le bitume surchauffé. Qui s'attend à un barrage non signalé en plein désert? Les deux appelés, suant, le crâne presque rasé, la veste blousante mal coupée, couleur excrément de chameau, couverte de poussière, ont ouvert de grands yeux, attrapé leurs armes, se sont approchés du Range Rover blanc, ont observé les trois étrangers à l'intérieur, ont hésité, ont esquissé une question qu'ils n'ont finalement pas osé poser. L'un a baissé la chaîne, l'autre a mouliné un grand signe du bras, et Bilger a remis les gaz. Sarah a soupiré. Bilger avait avalé sa langue. Pour quelques secondes, du moins. Le conducteur. Bravache. J'ai quand même failli me prendre cette putain de chaîne à 120.